Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain Mekena.
Salut à tous! Autre émission de « Ça tient la route ». Alain Mekena, bonjour.
Bonjour Benoît.
Alors aujourd'hui au menu, je vais vous parler d'un modèle dont j'ai finalement le droit de vous parler.
Ah bon?
Le Mazda CX-70.
Ah.
Je suis allé à une présentation à New York il y a une dizaine de jours.
Mm-hmm.
Et on nous a présenté le modèle et je vais tout vous donner les détails de ça. Tantôt, modèle, ça s'en vient au printemps.
Modèle important pour Mazda. Quand même.
Modèle important parce que c'est un segment important. Puis je vais vous dans les nouvelles, moi vous parler de ça.
Parfait.
En essai routier, t'as quoi, toi, sur la route cette semaine?
Je retourne en Chine avec le Buick Encore GX, dont on entend quand même parler pas mal. Le Buick pousse fort ces jours-ci en termes de marketing. Donc, j'avais essayé.
J'ai voulu faire un complément à ce que t'as essayé parce que moi, j'ai le Buick Envista.
Oui.
ST.
Ah oui.
Que j'ai essayé, qui est un très, très proche parent.
Ah.
Qui
c'est
vient,
dur d'être
lui,
plus proche, ouais, effectivement.
Oui, c'est des frères de sang, mm-hmm. On pourrait le dire comme ça. Mais je vais m'aligner sur ce que tu vas me dire.
Parfait.
Pour te donner des nuances avec le mien. mais cela dit, bon petit modèle. J'ai loin d'avoir détesté ça. Je vais vous en reparler plus en détail à la fin de l'émission. Et notre invité de la semaine, c'est Daniel Breton. C'est un habitué. Daniel, ancien ministre de l'Environnement, qui est présentement président directeur général de Mobilité électrique Canada. On va revenir sur le projet Northvolt parce qu'on le sait, là, ça a fait un petit peu de vague depuis quelques semaines. Le projet était comme in the bag, comme on dit dans un mauvais français.
Dans la poche, ben oui.
Mais
ça rebondit sans arrêt.
Ça rebondit, on est ressorti du sac. Là, on va voir. Puis Daniel a sa théorie là-dessus. Mm-hmm. Alors, j'ai bien hâte de l'écouter puis de voir comment la suite des choses pourrait se dérouler. Mais évidemment, pour commencer l'émission, on a des petites nouvelles. Je t'écoute, mon cher Alain.
Oui, ben on va partir d'un complètement ailleurs là pour commencer l'émission. On va parler de jeux vidéo parce que si j'avais à dire en ce moment c'est quoi le thème fort dans l'automobile cette année en 2024, je pense que le jeu vidéo va faire partie des leçons qu'on va tirer de l'année, je veux dire comme ça. On se demande souvent, parce que c'est un classique, hein, dès les premières semaines de janvier, quel thème fort va définir l'année dans différents secteurs d'économie, d'activité économique. Et clairement, le jeu vidéo cette année, je ne sais pas si on peut dire que l'auto est le thème fort dans le jeu vidéo ou si le jeu vidéo est le thème fort dans l'auto, mais il y a une fusion des genres, je vais dire ça comme ça.
Oui, puis là, on voit, là, il y avait plusieurs indices qui pointaient vers ça, là, parce qu'on a vu des petites nouvelles, on a vu des espèces de dépêches, mais là, on le voit, là, ça s'en vient de plein front.
Exactement.
Là.
Il y a Mercedes-Benz qui a annoncé durant le CES au début janvier l'arrivée de jeux vidéo sous toutes ses formes à bord de ses futurs véhicules. Et là, il y a quelques jours, c'était au tour de Ford et de Lincoln de promettre pour plus tard cette année une nouvelle offre de divertissement vidéoludique, je l'ai dit comme ça, à bord de ses propres nouveautés. Ford semble abandonner le nom Sync, d'ailleurs, pour son système multimédia, pour un nouveau nom ou un nouveau système qui s'appelle Digital Experience, parce que, tu sais, Sync, c'était bien trop difficile à dire. ce nouveau système, donc, Digital Experience, est conçu pour animer les systèmes multimédia à la fois des véhicules Ford et Lincoln. Donc, on harmonise toute la patente. Et ça va commencer à bord du Nautilus 2024, qui a fait une refonte du VUS intermédiaire qu'on connaît déjà, là, de Lincoln, et qui promet d'être très high-tech. À bord du Nautilus, le système Digital Experience, il va falloir trouver un autre nom sérieusement, ce système-là prend la forme d'un énorme affichage qui fait 48 pouces. Il fait sérieusement le pare-brise. Il est
48 pouces, c'est la largeur de l'auto.
Il fait le véhicule de bout en bout, exactement.
Là, c'est parce que c'est quand même 4 pieds, ça, là.
Oui.
Bon, je m'excuse, je parle comme un vieux, là, mais...
Exact. Ben, c'est quand même assez large, là. C'est littéralement 1,20 m. Hein, tu vois, je peux te convertir.
1,20 m.
Convertir en métrique. Mais on va évidemment trouver des versions aux dimensions plus modestes à bord des véhicules plus abordables du groupe Ford et de Lincoln aussi. Quoique plus abordable chez Lincoln, je suis pas sûr. Mais bref, dans tous les cas, c'est la plateforme Google Automotive qui forme la base de l'interface. Ça permet à Ford et à Lincoln d'afficher directement les données de navigation de Google Maps sur l'écran du système, à condition évidemment que le système soit connecté à un réseau sans fil. Et ça, c'est l'affaire qu'on dit pas, mais ces nouveaux systèmes-là, forcément, vont vous obliger à payer annuellement pour des connexions cellulaires.
C'est sûr. C'est pas dit, mais c'est
souvent, on inclut 4 ans dans le prix de détail à l'achat, mais après ça, faut renouveler
ça. C'est comme tous les systèmes. Les trois premiers mois sont gratuits. Après ça, il faut que tu te désabonnes.
Et oui, sinon tu continues d'être abonné, ça coûte plus cher.
Voilà, comme 80% des gens oublient de se désabonner, ça fait des clients payants qui oublient qu'ils étaient abonnés.
Il n'y a rien de gratuit dans la vie, n'est-ce pas?
Non.
Et non plus Google Maps, disons-le comme ça, dans le système de Ford. Il va aussi avoir, par défaut, là, la possibilité de commander une interface, en fait, l'interface avec la voix en dialoguant avec l'assistant Google. Mais les gens qui n'aiment pas nécessairement cet assistant-là vont pouvoir choisir d'activer Alexa à la place, la commande vocale d'Amazon, qui fait aussi partie du système Digital Experience.
On peut choisir, je sais pas moi, Sean Connery ou Robert De Niro.
Ça serait le fun, hein?
Ben, je sais pas. Moi, j'aimerais ça que Robert De Niro me donne le chemin où aller.
Ouais, tu te rendrais pas mal plus vite, j'ai l'impression. Cela dit, contrairement à d'autres constructeurs, Ford continue de proposer les interfaces sans fil CarPlay et Android Auto dans son système. C'est pas tous les constructeurs qui ont le système Google là, qui l'offrent. En fait, c'est pas les constructeurs tout court qui l'offrent. Je pense que GM a abandonné ou va abandonner CarPlay. Toyota est pas sûr non plus. Bref,
en fait,
ça bouge beaucoup.
GM a vu venir la chose et veut tenter d'en faire un lui-même pour ramasser les sous qui vont avec.
On parle de dizaines de milliards de dollars en services par abonnement qui peuvent arriver par là. Pour en revenir aux jeux vidéo, là, le système de Ford va avoir droit au Play Store de Google qui va permettre de télécharger des applications de divertissement à même sa voiture. Ça comprend des jeux vidéo, donc, et c'est ce que Ford a voulu souligner. Le premier jeu à faire s'appelle Asphalt Nitro. C'est un jeu de course automobile, c'est approprié. Encore, je suis pas sûr si c'est approprié. Bon, on va se discuter, mais on va pouvoir jouer.
Un jeu de course dans ton auto.
Ben, c'est ça, tu sais.
Ça
bonne
risque
nouvelle...
peut-être d'engendrer certains mauvais comportements sur la route.
La bonne nouvelle, c'est que c'est pas le volant qui va servir de contrôleur. Va falloir jumeler un contrôleur par Bluetooth. Ben non, mais tu ris, mais au CES, Mercedes...
T'as déjà un volant dans les mains, tu dis, ah, on est dans le jeu vidéo. Ben
la démo
oui.
du jeu vidéo de Mercedes au CES, c'était avec le volant du véhicule qu'on contrôlait, le petit bolide dans le jeu vidéo.
Ah oui, OK, d'accord.
Ça commence à brouiller les pistes un peu trop à mon goût. Mais là, dans ce cas-ci, on parle de contrôleur
jouer,
de jeu
évidemment,
vidéo.
Où tu peux jouer seulement quand le véhicule t'a arrêté.
Ben, forcément, ben oui, c'est ça. C'est ce que Ford et Lincoln sont empressés de dire. Pour jouer, il faut que le véhicule soit stationné.
J'espère.
Mais la tendance est lancée. Donc, attendez-vous à entendre parler de jeux vidéo dans votre voiture connectée dès cette année.
Voilà. D'accord. Autre nouvelle, le projet Redwood.
Ben oui,
de ça, toi.
Connais-tu le projet Redwood?
Ben là, tu viens de me l'apprendre.
c'est le nom donné au fameux projet de modèle 2 de Tesla qui pourrait arriver sur les routes dans la deuxième moitié de 2025.
C'est okay, ce que rapporte... fait que ça va être comme le Cybertruck, 2030, 2031.
Ah ben là, spéculons tant qu'on veut, effectivement. c'est ce qu'a rapporté l'agence américaine Reuters là, il y a quelques jours. Tesla serait en train de sonder ses fournisseurs pour trouver des pièces qui vont lui permettre de construire à partir de la deuxième moitié de 2025, et cette phrase-là laisse du vague, parce qu'à partir de la deuxième moitié de 2025, ça peut être très
long. Ouais, ça peut être en 2026. Là.
Exact, mais l'objectif, c'est de créer donc un nouveau modèle de voiture électrique dont le prix de détail avoisinerait les fameux 25 000 $ US américains là, qui reviennent à 32 000 canadiens, je pense, quelque chose comme ça.
Ouais, on était sous la barre des 30 000 il y a quelques années. Mettons, on pourrait être sous la barre des 35?
Ben, ça serait déjà pas pire. C'est le fameux projet que la rumeur appelle le modèle 2 depuis plusieurs années et que Tesla à l'interne appellerait justement son projet Redwood. Pour l'histoire, modèle 2, c'est 25 000. Modèle 3, à l'époque, c'était d'avoir un véhicule à 35 000, sous les 35 000 $ US. Même si, en définitive, il se vend plus cher que ça en moyenne. Là, c'est quand même ça l'objectif. On ne sait pas trop effectivement quelle forme va prendre le nouveau modèle, mais selon des sources anonymes citées par Reuters, on aurait droit à un plus petit véhicule de format familial, une espèce de ce qu'on appelle en anglais un crossover, qui se traduit pas très bien par multisegment.
On peut-tu parler d'un modèle Y écrasé un peu?
Qui serait justement un peu plus petit que le modèle Y. Ce qui est important pour Tesla, parce que le modèle Y, on le rappelle, c'est le véhicule électrique le plus vendu sur la planète, puis je pense que c'est le véhicule le plus vendu de tout court, si je me trompe pas. Hors camionnette, hors tout le reste. Là.
Exact.
Donc, c'est quand même un modèle assez populaire. Pour Tesla, le temps commence à presser. Tesla n'est plus, elle, la marque de voiture électrique la plus populaire au monde. Elle vient de se faire dépasser cette année par BYD.
Oui,
Build Your Dreams. Une marque chinoise qui appartient à 60% des intérêts américains. Là encore, on brouille un peu les pistes. Et le principal investisseur américain dans BYD, c'est le fonds d'investissement Berkshire Hathaway qui appartient au milliardaire Warren Buffett, l'oracle d'Omaha. Donc, c'est une compagnie qui connaît bien le marché américain. Ouais, on le soupçonne. BYD est en train de se positionner justement pour investir le marché nord-américain, je devrais le dire comme ça, avec ses véhicules électriques plus abordables que les Tesla, ce qui fait évidemment réagir Elon Musk. Donc, ce dernier promet des véhicules électriques plus abordables. Le fameux projet du modèle 2, il en parle depuis 2020. Évidemment, ça a pris du temps à se concrétiser pour plein de raisons. Tesla n'est pas le seul groupe américain à avoir de la misère à réduire le prix de vente de ses véhicules électriques. On parle depuis un an et demi du Chevrolet Equinox EV qui devrait coûter 30 000 $ chez nous, mais on l'a toujours pas vraiment vu à ce prix-là.
Non, on l'a annoncé à 35 000 $, 35 500 pour être précis. Voilà. Mais là, ça, c'est la version de base. On n'aura pas la version de base en premier. On va avoir la version la mi-coupée qui va probablement être à 45 000.
Peut-être même plus.
Et je doute même un jour qu'on va voir une version de base. Mais ça, c'était une autre histoire.
Une autre histoire, mais la bonne nouvelle dans tout ça, s'il y en a une, c'est qu'on sent un intérêt soudain, parce que ça fait longtemps qu'on avait hâte que ça se manifeste, là, cet intérêt-là, vers des véhicules électriques, de la part des constructeurs, là, vers des véhicules électriques dont le prix ne sera pas plus élevé que celui des véhicules à essence comparable. Donc, tranquillement, pas vite, d'ici la fin des décennies, là, on voit les prix baisser dans l'électrique, et ça, c'est probablement la bonne nouvelle dans tout ça.
Et pendant que tu parles de Elon Musk, que tu parles de Tesla, que tu parles de BID, il y a un nouveau joueur qui est arrivé sur le plancher qui s'appelle Flavio Figueiredo Assis. C'est un Brésilien.
OK.
En fait, il veut laisser une trace dans l'histoire de son pays en devenant le premier fabricant local de véhicules électriques. Puis il s'attaque à rien de moins d'Elon Musk. Il est diplômé en droit et en comptabilité. Tu dis OK.
OK.
Monsieur Assis a créé Le Car. Le CAR, c'est le nom du véhicule. Grâce à c'est un outil de gestion de cartes d'alimentation. Il a réalisé un chiffre d'affaires de plus $1 milliard en approvisionnement des organismes publics et privés au Brésil. Donc, le monsieur s'est fait un petit peu de sous. Ça réunit une trentaine d'ingénieurs. Il a fait une division automobile et il a pris son expérience pour appliquer ça en automobile. Il y a une usine qui est en construction. Il y a une usine d'assemblage au Brésil. Et c'est là qu'on entend produire le Car 459. OK, je le sais, il n'a pas cherché longtemps. Le premier modèle de la marque, en fait, c'est une appellation qui est inspirée par l'attrait que porte le fondateur pour l'inventeur Nikola Tesla, qui avait une obsession pour le chiffre 9. Alors, faute de pouvoir utiliser ce nombre seul pour désigner sa berline, M. Assis a imaginé un détour amusant. Car en additionnant 4 et 5, 4 on obtient 9.
9, mon Dieu.
Alors, c'est le Car 459. Bon, OK, vous savez d'où le nom vient. Je voulais l'expliquer parce que, voyons, il a pris ça où, lui, le bonhomme. Alors, de façon plus sérieuse, c'est un modèle qui va être offert, dis-je oui. Bien, à 279 459 réaux brésiliens. Ah, hein, vous avez eu peur, là. C'est quand même 75 000 $.
Ben, alors, ça fait encore un petit peu peur, ouais.
Bon, selon le constructeur, on pourrait atteindre 250 km/h, avoir une autonomie de 400 km. Et on vise le BID Seal, qui serait le modèle précis, qui est un modèle chinois, vous l'aurez compris. Ben oui. La carrosserie de la voiture va être faite de feuilles de moulage pré-imprégnées. C'est un matériau flexible, robuste, léger, qui sert à préparer, qui arrive déjà coloré. Donc, on colore le matériau et c'est la couleur de l'auto. Alors, évidemment, on sauve quelques étapes dans le processus. Ça permet aussi de sauver des coûts. Par ailleurs, dans un avenir qui n'est pas trop lointain, mais on n'a pas précisé de date, évidemment. On a fait attention de ce côté-là. Il y a d'autres modèles qui vont arriver et on attend un nouveau modèle populaire à 5 places qui s'appellerait le Car Pop. Comme dans la musique pop, qui aurait une autonomie de 250 km et qui sera offert à 25 000 $. Ah, là, on commence à jaser. Ben oui. Alors, le monsieur en question, monsieur Figueiredo Assis, veut investir sa fortune et aller dans l'électrique. Alors, surveillez ce nom-là, Le Car. C'est assez facile à retenir.
C'est le fun,
et
ça
pourrait être des modèles intéressants. Voilà, ça complète un peu nos petites nouvelles pour cette semaine. On va aller à la pause et on revient avec Daniel Breton.
Un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct. L'assurance simplifiée.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, notre invité de la semaine est un régulier de l'émission. C'est sa première présence en 2024. Uh-huh. Il a été ministre de l'Environnement sous Pauline Marois. Il est présentement président-directeur général de Mobilité électrique Canada. Et j'ai nommé Daniel Breton. Salut, Daniel!
Bonjour, monsieur.
Hey, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Je sais que tu es en réunion à Toronto. Tu as beaucoup de choses à ton agenda. Mais on s'était vu au Salon de l'Auto et tu me dis, hey, faudrait bien parler de Northvolt parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, on profite de l'occasion aujourd'hui justement pour en discuter. Je sais que c'est un projet que Mobilité électrique Canada a salué quand le projet est arrivé au Québec. Mais il y a eu quelques, comment dirais-je ça, un peu d'eau dans le gaz, hein, pour prendre des termes automobiles. Parle-nous un peu comment vous, maintenant, chez Mobilité électrique Canada, vous voyez le projet.
Ben, en fait, on voit toujours le projet de façon très positive. Écoutez, quand on parle d'un projet de fabrication de cellules qui va diminuer de 70 à 90 % l'impact écologique de la fabrication des batteries par kilowattheure, c'est extrêmement impressionnant, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue écologique, sans parler de l'aspect développement économique, développement d'une expertise de la filière batterie au Québec. Donc, c'est sûr qu'on appuie ce projet-là.
Bon.
Cela dit, moi, comme ancien ministre de l'Environnement et qui a travaillé très fort pour faire en sorte de redonner ses lettres de noblesse au BAP dans le passé, lorsque j'étais là, avant et après, j'ai été étonné que le gouvernement du Québec annonce que les règles en vigueur faisant en sorte que maintenant, un projet comme le projet Northvolt n'aurait pas à passer devant le BAP. Et je trouve ça étonnant parce que on dit que le projet Northvolt est le plus gros projet privé de l'histoire du Québec, mais que malgré ça, il est trop petit pour qu'on ait à passer devant le BAP. Donc, je me dis, quel genre de message ça envoie d'un point de vue de la crédibilité ou de l'utilité du BAP si Northvolt n'a pas besoin de passer devant? Pourquoi est-ce que quelque autre projet devrait passer devant le BAP?
Oui, puis on s'entend, là, on parle peut-être de petits projets, mais c'est quand même un gros projet. Là. C'est à peu près un des plus gros chantiers qu'on a eu au Québec depuis je sais pas combien d'années. Alors, ça va prendre quoi pour qu'il y ait une étude du BAP au juste? Là?
Et quelle crédibilité le BAP a-t-il après ça pour d'autres projets?
Ben oui.
Ou pourquoi est-ce qu'il y a des gens ou des entreprises qui présentent de plus petits projets, les autres, ils vont dire, ben pourquoi est-ce que nous autres, on devrait passer devant le BAP bon. Si Northvolt n'est pas passé devant le BAP?
Bon, exact. Qu'est-ce que vous metteriez de l'avant au niveau du BAP? Parce que là, on le sait, on va couper à peu près 8000 arbres, il y a des zones humides. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait?
Ben, en fait, moi, je pense que la bonne chose à faire, ce serait pour que le gouvernement change d'idée et dise, on va faire un BAP. Il y a même une procédure de BAP accéléré qui peut être possible. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Parce que là, Northvolt, qui est une compagnie responsable et qui se conforme à la réglementation en vigueur, se retrouve totalement pris en fabre et d'écorce. Mm-hmm. Dans cette situation-là, aux autres, ils ont l'odieux sur les épaules. Et tu veux pas ça. C'est-à-dire que tu veux faire en sorte de faire preuve de leadership. Northvolt est un leader. Et c'est pourquoi je dis que le gouvernement doit revenir sur sa décision, sur son annonce de dire qu'il n'y aura pas de BAP. C'est même à la discrétion du ministre.
Oui,
le ministre peut demander un BAP. Et je tiens à rappeler que le BAP n'a pas de caractère exécutif, mais seulement consultatif, mais au moins d'un point de vue de la transparence, d'un point de vue de la démocratie, les citoyens vont être rassurés parce qu'on parle quand même d'investissements publics importants.
Exact.
Et là, le manque de transparence... Écoute, Alain, je ne sais pas si tu te rappelles, on a vu dans les journaux des demandes d'accès à l'information où 80% des documents qui sont publiés sont caviardés.
Exact.
C'est un enjeu, là. C'est un vrai enjeu démocratique
qui va dans
de
bon
transparence.
Sens.
Non,
exact. Et corrige-moi si je me trompe, Daniel, Northvolt, les autres usines où on a construit, il y a eu des études environnementales.
Bien, tu sais, ça dépend d'une juridiction à l'autre. Mais je veux dire, l'idée là-dedans, c'est de dire, nous, on appuie la filière batterie, on appuie la filière d'électrification des transports au Québec ou au Canada. Et ça fait en sorte de non seulement nuire à la réputation de Northvolt, c'est en train de nuire à la réputation de l'ensemble de la filière d'électrification des transports au Québec et même en Toronto. On en discute. On dit, ben là, qu'est-ce qui se passe avec ça?
Mm-hmm.
Et donc, moi, ce que je dis, c'est que c'est un signal d'alarme. Ça veut dire, faut pas penser que parce qu'un projet est bon d'un point de vue de l'environnement, qu'on peut passer outre les considérations, les questions des citoyens. On est en 2024, le côté de démocratie environnementale, c'est quelque chose d'important dans le legs québécois. Faut pas reproduire les mêmes erreurs du passé.
Ben, on a certainement pensé que la valeur économique de la chose et technologique, à la limite, allait faire oublier le fait qu'effectivement, il y a une responsabilité environnementale importante à construire une usine qui est énorme, même si le terrain utilisé a un historique d'avoir été encore plus pollué dans le passé.
Oui. Ben, moi, je peux vous dire que je suis toujours étonné de voir que des gens considèrent que l'écoute des citoyens, quelque chose dont on peut passer outre, parce qu'on dit ben c'est un bon projet, ça va créer des emplois. On n'est plus en 1970. Il faut entendre les recommandations, les questions, les réflexions des citoyens. Puis moi, je suis certain au final que le BAP va dire projet intéressant, peut-être petits ajustements à faire. Puis tout le monde va saluer l'ouverture et la transparence du gouvernement.
Exact.
Pour le moment, ça ne regarde pas bien.
Il y a une déconnexion, parce qu'on parle au niveau provincial, mais au niveau municipal aussi dans la région, on a tendance à, et je l'ai entendu plusieurs fois, de gens qui disent « Ah, c'est pas la petite grenouille, la fameuse petite grenouille qui va nous empêcher de développer l'économie. » Alors que les citoyens ont tendance à dire le contraire. Il y a vraiment au niveau politique une discussion, une réflexion à avoir sur justement la façon dont on présente les projets d'envergure importante comme ceux de Nordvolt pour que ce soit accepté, que ce soit justement conforme à ce qu'on a comme vision du développement régional et provincial. Parce que Nordvolt, ça fait partie d'une solution à un problème. Mais là, on est en train de créer un problème à une solution en allant trop vite dans son acceptation, finalement.
Ben, écoute, en anglais, il y a une expression qui dit « there's a wrong way to be right ».
Exact.
Je trouve qu'on l'a trouvé, là. C'est-à-dire que plutôt que de dire « c'est un projet intéressant, on va faire une consultation, les gens vont être informés, ils vont être rassurés », il va toujours y avoir des mécontents. Mais ça va faire en sorte que les gens ayant été informés, ayant eu l'impression ou la vérité de la possibilité d'une participation citoyenne, ça va faire baisser la pression considérablement sur Nordvolt, sur le gouvernement du Québec, sur les élus locaux et sur la filière au complet. Mm-hmm. Je pense qu'il y a une leçon à tirer de ce projet-là, comme quoi, pas parce que c'est... Tu sais, le développement durable, là, ça inclut le côté économique, écologique et social. Et là, pour le côté social, pour le moment, on l'a échappé.
C'est drôle parce que pas tellement loin sur la 116 à Saint-Hubert, on a construit, on est en train de pratiquement de finir une autre usine de batterie pour, je pense, le secteur de l'aviation, je sais pas trop. Et on entend beaucoup moins parler de ce projet-là. Donc, clairement, il y a une façon de faire les choses qui peut être correcte si c'est bien fait.
Oui, puis ça, ouais. ça a été très médiatisé. Je pense que, Daniel, tu as raison dans un point important. On va envoyer un drôle de message si Nordvolt passe tel quel. Ça veut dire que tous ceux qui vont vouloir se présenter après vont dire, bon, au Québec, ça a l'air simple. Il n'y a pas grand monde qui vérifie quoi que ce soit, puis on peut construire ce qu'on veut.
Oui, non, c'est ça. Donc, je pense que, d'après moi, c'est une erreur stratégique, politique du gouvernement du Québec. Il n'est pas trop tard pour rattraper cette erreur.
Hey, sur un autre sujet, Daniel, tu prépares un livre pour l'automne. Parle-moi donc de ça un peu, toi.
En fait... pas un guide.
C'est bien de le préciser.
Bon, alors on est moins créatif.
Ouais, non, c'est ça. Je m'en vais pas essayer de voiture électrique pour dire quelle voiture acheter. C'est vraiment pas ça. C'est un livre à caractère plus scientifique.
OK.
Où on va parler d'émissions de gaz à effet de serre, de la filière batterie, de l'analyse de cycle de vie, la quantité d'énergie nécessaire pour les différentes filières. Donc, ce ne sera pas un livre grand public. Je dirais c'est un livre que Mobilité électrique Canada va publier comme livre de référence pour les élus, pour les journalistes, pour les scientifiques, pour les universitaires, pour que les gens aient une idée plus juste des enjeux, des tenants et aboutissants de la filière d'électrification des transports, parce que là, ça va dans tous les sens, et dans les médias traditionnels et dans les médias sociaux. Donc, avec un groupe de scientifiques, là, on est en train de travailler là-dessus pour le publier rendu au mois de septembre.
Oui, j'imagine que tu en profites pour déboulonner quelques idées reçues, parce qu'il y en a beaucoup qui circulent, et ça encore justement dans le dernier mois, on en a passé beaucoup sur les réseaux sociaux.
Les idées reçues ont la vie dure, hein?
Oui.
Ah, mon Dieu, puis là, je veux dire, là, tu sais que les voitures électriques en hiver, quand il fait froid, tu peux pas partir, tu peux pas voyager, ça peut pas se recharger. Écoute, c'est du délire. Mm-hmm. Une, d'ailleurs, moi, quand je me promène en voiture électrique, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, il dit, pourquoi tu vas à Toronto ou à Québec ou à Ottawa ou à New York en voiture électrique? Je dis, pour montrer que ça marche. Ça marche bien.
Ben oui.
Puis,
ben
voilà. Mais ça a l'air niaiseux, mais je le fais presque toutes les semaines. Mais c'est pour démontrer qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de spin anti-voiture électrique qui circulent ces temps-ci dans les médias. Et donc, sur les médias sociaux, mais à un moment donné, tu vas aller plus en profondeur dans les dossiers.
Exact.
Si vous avez vu, il y a un message que j'ai écrit il y a quelques semaines où je parlais, parce qu'il disait, bon, ben ça va prendre 20 tonnes d'extraction minérale pour faire une batterie.
Puis là, oui, je l'ai vu. Oui, tu dis qu'il n'y avait pas de... C'est ça, il n'y avait pas de lithium dans ce batterie-là, ni de cobalt, ni de nickel.
Ben, pas qu'il n'y a pas de lithium, mais dans la batterie dont il était question, la batterie LFP.
Ah oui, il n'y a pas...
Ouais. Sans cobalt, sans nickel. Puis exact. En plus, dans un message suivant que j'avais publié, je disais, écoutez, si on veut parler de pétrole... Fait que là, j'ai parlé des sables bitumineux. Je disais que pour une seule voiture à essence qui consomme 8 litres au 100, le calcul sur la durée de vie du véhicule, ça va être à peu près 636 tonnes d'extraction de sables bitumineux, 860 tonnes pour un camion léger qui fait 10,5 litres au 100. Donc, si on veut parler d'extraction, là, on peut en sortir des chiffres.
Oh, oui.
Donc, c'est pour ça.
En fait, on le dit, des chiffres, ça peut dire rien et n'importe quoi en même temps. C'est facile, on a juste pas à prendre les chiffres qui nous intéressent puis à y aller avec. Ben écoute, merci beaucoup de ton temps, mon cher Daniel. Je sais que tu es en réunion, on veut pas prendre trop de ton temps et on va suivre ça de près, notre vote, puis s'il y a d'autres choses, on va te rappeler.
Parfait.
Merci, bye bye. Alors, c'est Daniel Seigneur. Breton de Mobilité électrique Canada. Un sujet que j'ai pas parlé dans mon entrevue au début, mon introduction, le fameux Mazda CX-70. Je voulais prendre du temps après Daniel. Il nous reste un petit peu de temps avant la pause. Je voulais vous glisser ça. CX-70, je suis allé à New York la semaine dernière. Il y avait un embargo jusqu'au 30 janvier, donc je pouvais pas vraiment vous en parler à l'émission de la semaine dernière, mais je vous en parle cette semaine. En fait, c'est le premier véhicule 5 places qu'on retrouve dans ce format-là, c'est-à-dire les intermédiaires 5 places chez Mazda. Mm-hmm. Parce que là, évidemment, du côté de Mazda, on va avec des zéros. Là,
je moi j'ai plein de questions par rapport à ça.
Ce n'est pas la valeur du véhicule, ce qu'on rajoute un zéro. Parce qu'on a eu le CX-3, il y a maintenant un CX-30, on a eu le CX-5, il y a le CX-50. Le CX-9 a disparu, on l'a remplacé par un CX-90.
Ouais.
Le CX-7, lui, a disparu, si ma mémoire est bonne, c'est autour de 2010, le dernier modèle. Ça fait déjà un bout de temps.
Ça fait longtemps, ben oui.
2,3 litres turbo, beau petit modèle, gourmand. Et là, on se dit, OK, il faudrait revenir avec quoi? Ben avec un CX-70, évidemment. En fait, à la base, c'est un CX-90. C'est
qu'on
la même plateforme.
On rétrécit un peu, là.
On rétrécit en longueur, parce que c'est la même plateforme. J'ai confirmé auprès de Mazda, j'ai posé la question quand j'étais là-bas. Même moteur, donc on va avoir un 6 cylindres en ligne et on va avoir un moteur PHEV. Le 6 cylindres en ligne, vous l'aurez compris, c'est un 6 cylindres, hein? 3,3 litres. Avec les mêmes puissances, c'est-à-dire un 280 chevaux et un 340 chevaux dans la version High Output, là, le modèle le plus performant.
Mm-hmm.
Et on a un 2,5 litres PHEV. On n'a pas confirmé l'autonomie du PHEV. Il y a 42 km dans le CX-90. J'imagine qu'on va être à peu près, là, si on a le même moteur, on va probablement...
Si on l'a allégé un brin, espérons.
Bon, si on l'a allégé, l'aérodynamique, bon, certaines choses... Peut-être, mais tu sais, on n'aura pas 70, là.
Ça n'est pas le leader qu'il pourrait être.
Non, c'est un peu lent de ce côté-là. Mm-hmm. On est dur de compreneur, comme disait ma grand-mère. donc, les prix, on ne les connaît pas. On n'a pas voulu nous donner de prix. On sait que ça arrive au printemps, donc c'est bientôt. En fait, ce qu'on a beaucoup joué, c'est l'espace. Parce que là, comme il y a deux sièges de moins à l'arrière, mais qu'on a le même espace intérieur, vous avez plus de place cargo et vous avez aussi un peu plus de place à la deuxième rangée. On avait sur place où on est allé à New York une version avec un intérieur Bourgogne qui est unique au modèle CX-70. On va dans les mêmes grandeurs de roues, donc jusqu'à du 21 pouces pour les modèles les plus cossus. Est-ce que ça va marcher? Ah là, ça, c'est la question du siècle. On a quand même un créneau intéressant. Bon, tu parlais de ton passeport 2015 la semaine passée,
ben
là,
oui.
Qui est un 2024,
ben oui.
Mais c'est un 5 places. Et Honda est arrivé à la même conclusion, c'est-à-dire on a un pilote qui est un 7 places, on n'a pas vraiment de 5 places, on veut pas non plus mettre tout notre argent pour développer un modèle qui se vendra peut-être pas à la tonne. Chez Volkswagen, on a pris l'Atlas, on a fait un Crossport, et on en a fait un 5 places, donc on a utilisé le même modèle, on a arrondi le toit, on l'a mis là. Chez GM, on en a aussi dans des formats semblables. Donc, c'est un créneau qui est assez populaire. Le Ford Edge a été très populaire dans ce segment-là, qui est en fait le plus petit que l'Explorer.
C'est drôle parce qu'à notre époque, on faisait des VUS intermédiaires, puis on les grossissait avec une troisième rangée.
Puis là, on fait le contraire, on les rapetisse. Donc, j'ai hâte de voir. Mazda, c'est probablement, en tout cas, à moins d'erreur, c'est un de ses seuls lancements cette année. Il n'y en aura pas des masses, parce que là, les modèles sont encore récents. Le 90, c'est l'année passée. Oui. Il y a des modèles qui ont bien fonctionné. Le CX-50 fonctionne bien. Et comme ça ne remplace pas de modèle, parce que là, on se pose toujours la question, combien de temps ils vont garder le CX-5 puis le CX-50 ensemble? Sauf que le CX-5 se vend encore très bien. Fait que Mazda n'ose pas l'enlever. Si les ventes t'as tombé sec quand le CX-50 t'est arrivé, on l'aurait vu disparaître plus vite. Mais là, comme il est resté là, probablement que les deux vont cohabiter jusqu'à ce qu'il y en ait un qui vraiment tire de la patte. Mais pour le moment, c'est pas encore le cas.
Il n'y a pas de CX-7.
Il n'y a pas de CX-7, ça ne remplace rien. Mm-hmm. Ça va-tu aller chercher une clientèle? Probablement que ça va aller chercher
une
clientèle.
De prix,
bon, voilà. Tout va être dans le prix. Mais tu sais, si on regarde dans ce segment-là, on est généralement entre 50 et 60, là, selon l'équipement, le modèle, les versions. Fait qu'il faut s'attendre à quelque chose qui va à peu près être dans cette catégorie-là. Mm-hmm. Mais au final, je pense que c'est un véhicule qui va être assez intéressant parce que le 90 est intéressant.
J'allais demander, est-ce qu'il s'apparente beaucoup au 90? Parce que la finition du 90 est impeccable.
Il y a juste la ligne, mais tout le reste, le format et tout ça, c'est très proche. Alors nous, c'est le temps d'aller à la pause. On va à la pause et on revient avec nos essais-outils.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, c'est le temps de nos essais routiers. Cette semaine, deux modèles frères, on peut le dire comme ça, là, parce que ça se ressemble beaucoup. En fait, un est la version un peu plus luxueuse de l'autre, disons ça comme ça. Mais avant d'en parler, évidemment, nous écouter, comment le faire, c'est toujours la même chose. Vous allez dire, coudonc, il répète à tous les semaines, oui, mais il y a des gens qui écoutent l'émission moins souvent. Hein? Alors, on fait ça vite, on en parle pareil sur le site de 98.5fm.ca, dans la section balado. Vous avez « Ça tient la route ». Les balados sortent généralement vers la fin de la semaine.
Les quatre saisons, je pense, sont là.
Exact, oui. Et vous avez aussi notre émission. On est en onde à Montréal le dimanche à 18h et je sais qu'on est un petit peu partout en province à d'autres plages horaires durant le week-end. Mm-hmm. Alors, surveillez, on l'annonce généralement localement chez vous. Si vous allez aussi sur votre plateforme préférée de balado, on est là, les principales, en fait, la majorité. Ou vous pouvez aller sur annuelauto.ca, notre site de l'annuel de l'automobile, et on a une section balado avec tout l'inventaire des balados depuis qu'on en fait.
Voilà.
Alors voilà, c'est dit. Alain, je te laisse commencer avec ton Buick encore. Parle-moi un peu de ça.
Oui, ben on en a déjà parlé il y a quelques semaines, ça tient la route. Le Buick est en train de devenir la marque, appelons-la Made in China, du groupe General Motors.
Effectivement, parce que c'est là qu'on en vend.
Oui. t'as tellement raison. Cette semaine, on renforce un peu cette impression double, en fait, avec toi aussi, en prenant la route, dans mon cas, à bord de l'Encore, du Encore GX. Un autre petit VUS d'entrée de gamme signé Buick qui est assemblé dans ce qu'on appelle aussi des fois l'Empire du Milieu, qui est un beau surnom pour la Chine.
Oui.
Outre leur pays de fabrication, ces véhicules-là là, de Buick, et j'inclus l'Envista, ils se ressemblent beaucoup, en fait, ces deux véhicules-là. Quand on regarde ça là, à la fin de la journée, pour les départager rapidement, disons que l'Envista est un VUS coupé à vocation plus urbaine, alors que l'Encore GX, qui est quand même relativement urbain, est un peu plus étroit, mais plus haut sur pattes et... propose bon un peu plus d'utilité, disons-le comme ça. Son coffre est un peu plus généreux. Buick inclut aussi deux séries sur l'Encore GX, l'équipement de remorquage nécessaire pour tirer une petite remorque ou une roulotte. Là, il n'y a pas une capacité de remorquage impossible, mais pour les gens qui veulent cet équipement-là, il est de série. L'Encore GX, donc, se veut un véhicule plus utilitaire. ma phrase, parce que ça me ferait que l'Encore GX est plus utilitaire que l'Envista, qui serait un peu plus sportif s'il n'était pas animé par une cylindrie de turbo de trois cylindres seulement, qui n'est pas particulièrement puissant.
On va y revenir.
Le moteur en question, qui a un volume de 1,3 litres, est le même qui anime l'Encore GX, évidemment. Il produit une puissance de 155 chevaux et un couple maximal de 174 livres-pieds. Tout ça est transmis aux roues motrices via une boîte automatique à 9 rapports. C'est une très bonne boîte, soit dit en passant, mais j'ai bien aimé. Elle est accompagnée par un système électronique qui s'occupe de faire passer la propulsion là, de 2 à 4 roues motrices au besoin. On peut activer le rouage intégral manuellement à bord de l'Encore GX. Là. Il suffit d'appuyer sur un bouton qui est au pied de la console. J'ai trouvé ça particulièrement appréciable, agréable, utile sur la chaussée enneigée des dernières semaines là, où on sent vraiment le système, on sent qu'il travaille donc au niveau des 4 roues. Donc, c'est pas nécessairement juste un système rassurant, mais aussi utile. Cela dit, ça... Écoute, je ne sais pas à quel point le rouage général affecte la consommation, mais on a une consommation moyenne, notre dans mon cas, qui a été de 10 litres au 100 km, qui n'a rien de spectaculaire. J'aurais peut-être aimé, vu la proposition, qu'on soit plus efficace à ce niveau-là.
Considérant la grosseur de la chose, effectivement, c'est pas terrible.
Effectivement, parce que c'est pas un très gros véhicule. Cela dit, au volant, la position de conduite est assez bonne. L'Encore GX n'a pas une très haute garde au sol, mais la caisse est quand même un peu plus élevée que celle d'une berline, ce qui va rassurer bien des gens. Il n'y a pas une tonne de distraction à bord. c'est peut-être la qualité du défaut. Étant donné que Buick le recours à un système multimédia minimaliste et à une finition qu'on pourrait qualifier de sobre, si on veut être poli, mais qui, à mon avis, mérite plus d'être qualifiée de bon marché. Elle n'a pas grand-chose à offrir d'original. Au moins, on a les interfaces sans fil CarPlay et Android Auto, donc ça, c'est quand même ça de gagner. Et je l'ai dit l'autre jour, mais je présume aussi que Buick attend la version 3.0 de CarPlay pour animer les cadrans derrière le volant aussi, parce que ça fait partie de la proposition d'Apple de faire ça éventuellement, mais c'est toujours pas là. Ça s'en venait en principe l'automne dernier. On a clairement pris du retard, donc c'est à suivre de ce côté-là. Sinon, on remarque assez tôt là, que l'Encore GX est confortable pour 4 personnes, mais tout juste, c'est un petit VUS, disons-le comme ça, juste assez vertical pour accueillir les personnes de grande taille, mais pas très large, pas très long, donc c'est un peu serré malgré tout. Pour tout ça, là, on a un prix de détail, somme toute, à mon avis, assez raisonnable. Ça démarre à 34 475 donc pas tout à fait 35 000 pour la version de base, et ça grimpe jusqu'à presque 40 000 pour l'édition à venir, laquelle est probablement, par contre, la plus attrayante du lot. Donc, il faut vraiment faire
la part des choses.
Ben, c'est ça. Mais des fois, la version plus chère est juste inutilement équipée. Celle-là, malheureusement, vous voyez ça comme vous voulez, là, mais c'est il y a quelque chose d'intéressant de ce côté-là. J'aimerais dire que c'est une bonne affaire, un Buick Encore GX de 40 000 mais il faut quand même faire des compromis un peu fâcheux, à mon avis, du côté de la conduite et de la performance, mais aussi du côté du confort et des technologies de divertissement, ouais. Ce qui fait qu'on va se garder une petite gêne, même s'il faut le dire, l'Encore GX, c'est peut-être un des rares VUS vendus chez nous qui coûte moins de 35 000 Il n'y en a pas des tonnes de ça quand on fait le bilan en 2024. Donc, l'avantage, pas cher. C'est un peu étrange de dire que les Buick sont en même temps parmi les véhicules les plus abordables, mais apparemment, c'est le nouveau recentrage de la marque. Et clairement, on apprécie le fait d'avoir un bon pied en Chine pour faire ce genre de... développer ce genre de stratégie-là du côté de Buick. Là.
Exact, exact. Bon, écoute... je pourrais faire dire bis.
Vous reculez, rejouez le bout.
Oui, absolument. Non, de mon côté, j'ai essayé le Buick Envista ST, qui est le modèle assez bien équipé, là, cuir, bon, noir sur noir. Je vais commencer avec les bons côtés. 28 à 32 000 $ de nos jours. C'est très raisonnable.
Oui, parce que l'Envista, c'est l'entrée de gamme chez Buick. Là, ça,
oui,
ça dit.
Exactement. Mm-hmm. Donc, c'est un modèle. Moi, j'avais un modèle à peu près à 32, mais même à 32, honnêtement, beaucoup d'équipements pour le prix. On a également un style qui est bien au-delà de la gamme de prix. C'est-à-dire que vous regardez ce véhicule-là sur la route, puis mon Dieu, ça n'a pas l'air de 28 à 32 000 $ Au contraire, c'est un véhicule qui paye mine. Beaucoup d'espace dans les deux rangées de sièges. Les deux rangées de sièges, et je me suis assis derrière moi, c'est-à-dire j'ai placé le siège pour moi à l'avant, et je me suis assis derrière, et franchement,
il y avait encore
beaucoup de place. Et la conduite est confortable. C'est un véhicule, on a bien calibré la suspension. La suspension est intéressante à conduire. Bon, évidemment, il n'y a pas de traction intégrale. Ça peut agacer un certain nombre de gens. Mais franchement, je l'ai eu dans la neige cette semaine sur des routes parfois glissantes. J'ai pas... Bon, oui, les roues d'en avant vont de temps en temps se promener tout seul, mais c'est pas pire que n'importe quelle traction avant. Si vous avez des bons pneus d'hiver, franchement, ça va. Mm-hmm. Donc, le moteur est efficace, mais 1,2 litres turbo, là, mettez ça du bord que vous voulez. Tu sais, 1,2 litres, là, c'est un pot de beurre de peanuts. Ça, là. C'est, si vous voulez savoir c'est quoi comme grosseur, c'est à peu près ça. il y a 137 chevaux, il y a 162 livres pied de coupe, effectivement. Mais c'est plus un véhicule pour dire on met ça à 110 sur l'autoroute, on touche à rien, vous allez être très confortable. Si vous avez un dépassement à faire, prévoyez vos affaires. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais franchement, c'est un premier essai fort intéressant, mieux que le Envision. Moi, j'ai essayé le Envision il y a plusieurs années.
Oui, c'est oui.
Et la première génération du Envision, on était à côté, là, à côté de la marque au niveau de ce qu'on devait avoir dans ce genre de véhicule-là. Mais pour l'Envista, franchement, c'est l'entrée de gamme. Et pour une entrée de gamme, ça fait très bien le travail.
Ben, tu sais ce que Buick aurait pu faire, ils auraient pu mettre une CVT. Hein. Donc, ça aurait pu être pire, disons ça comme ça.
Et ce n'est pas une CVT.
Exact.
Je ne l'ai pas mentionné. Mais comment ai-je pu oublier? Mais c'est vrai, c'est pas une CVT. Et ça, ça fait toute la différence au monde. Ça, on a été très intelligents de ce côté-là. Parce que franchement, c'est pas plus économique en CVT que ce qu'on aurait eu là. Bon, moi aussi, j'ai trouvé entre 9,5 et 10 que c'était élevé pour un si petit moteur. Le problème, c'est que le turbo marche souvent.
Oui.
T'as des moteurs turbo où le turbo va servir de relève. C'est-à-dire qu'en général, si vous êtes pas trop violent avec l'accélérateur, le turbo va dormir à peu près la moitié du temps et ça affectera pas votre consommation. Mais là, 1,2 litres, c'est clair que le turbo est toujours en fonction de la minute que vous appuyez sur l'accélérateur, il est là. Donc, un turbo a l'avantage de donner plus de puissance, mais a le désavantage de consommer autant qu'une plus forte cylindrée. Puis dans le cas du Encore GX, pas du et du Envista, c'est ça qui arrive. Il y a des belles fonctionnalités pour la conduite. Il y a une suspension arrière qui est bien calibrée. Il y a l'assistance au maintien de la voie, les feux de route automatiques, le rappel des sièges arrière. Ça, on a ça à peu près dans tous les produits GM. Détection des angles morts, j'en passe, c'est des meilleurs. Et on a un régulateur de vitesse adaptatif qui fonctionne bien. Le système d'infodivertissement chez GM, ça pose pas de problème. Facile à utiliser, ça facilite le jumelage. Moi, j'ai un téléphone, t'as plus besoin de fil. Là. Mm-hmm. Le jumelage se fait, il y a une recharge sans fil.
Il y a un petit pavé en dessous de la console.
Il y a un petit pavé en dessous de la console et ça fonctionne sans fil tout le temps. Alors ça, c'est merveilleux parce que le fil reste à la maison parce que j'ai oublié mon fil. Parce qu'il y a des systèmes que le CarPlay ou l'Android va juste marcher s'il est branché avec un fil. Mm-hmm. Dans ce cas-là, tout se fait de façon automatique. Il y a l'Internet à bord. Ça aussi, GM a été un pionnier dans ça. Ça fonctionne extrêmement bien. J'ai eu en plein soleil parce qu'on a eu un petit peu de soleil quelques jours.
Dans le mois.
Les boutons sont un petit peu difficiles. Aller au soleil. Il y a comme un éblouissement. Bon, c'est une critique. Et il n'y a pas d'essuie-glace en arrière. Ça m'a un peu tombé ses nerfs.
Ah oui, ça, c'est un problème.
Pas d'essuie-glace en arrière sur un VUS. Là, il a neigé quelques fois. Puis là, la première fois, je dis non, c'est pas. Là, je cherchais avec le petit bras. Là, je voyais bien qu'il n'y avait rien. J'étais allé voir. J'ai dit, je l'ai-tu manqué?
Il n'y en a pas.
Non, il n'y en a pas. Alors, petit conseil aux gens de GM, mettez donc un essuie-glace en arrière. Tu sais, quand tu as un modèle qui fuit, il se ramasse pas grand-chose. Mais là, c'est parce qu'il faut que tu mettes le dégivreur, que tu attendes. Là, ça fait une petite ligne. Après ça, whoop, la neige sur toi s'en va, whoop, s'en remplit. Fait que tu sais, en fait, dans certains cas, ça peut même être un cas de sécurité.
Ben, c'est
là.
Sûr, une moins bonne visibilité vers l'arrière, c'est pas exactement plus sûr. Là.
Mais cela dit, on a travaillé, puis tu le sais, Buick, on travaille un peu plus dans le luxe. Et même si c'est un modèle de base, l'Envista, on a ajouté un matériau acoustique supplémentaire qui rend la cabine plus silencieuse qu'un Chevrolet Trax.
Oui, sinon c'est ça. Le moins cher, c'est le Trax.
Le moins cher, c'est le Trax. Après ça, on arrive chez Buick, mais là encore, le même matériau insonorisant. Là. Mm-hmm. Mais ça donne, en fait, au point de vue de la cabine, ça donne un habitacle plus silencieux. Donc, ça a été franchement assez intéressant. Donc, dans l'ensemble, est-ce que j'aurai un Envista? La grosse question. Mm-hmm. À ce prix-là, oui. Honnêtement, là, s'il m'était arrivé avec ça à 40 et quelques mille, j'aurais dit...
Ouais.
Mais à 32 000, aujourd'hui, 32 000, c'est le 20 000 d'il y a 5 ans, là, honnêtement. Mm-hmm. Puis, on n'a pas l'air assis dans un véhicule à rabais. Franchement, on en a pour son argent et même plus, même dans le style. Bon, le style a des roues de 19 pouces, vous allez un peu payer pour ça. Mais tu sais, on n'a pas l'air à l'économie nulle part sur le véhicule. Mm-hmm. Puis bon, franchement, oui, un 1,2 litres, c'est pas terrible. Mais ça dépend, vous faites quoi avec l'auto? Ouais.
Ben, on sent une vocation pour Buick maintenant. Parce qu'il y a une gamme, il y a une stratégie, puis ils s'en vont avec
à
ça.
À 110 sur l'autoroute avec le régulateur de vitesse, ça, c'est tout à fait silencieux. Vous êtes confortable. J'ai pas à me plaindre. Donc, dans l'ensemble, on a fait des grands pas en avant pour les véhicules fabriqués en Chine.
En plus.
Et celui-là se mesure absolument très bien avec tout ce qu'il y a de ce format-là sur la route en ce moment. Mm-hmm. Et je vous dirais, allez-y, à moins qu'on ait un avis que le moteur est pourri dans 2 ans. Mais ce que j'ai essayé m'a beaucoup plu.
Je veux dire un truc par rapport aux véhicules qui sont importés de Chine, comme c'est le cas pour ces véhicules-là. L'empreinte environnementale est moins élevée parce que c'est par bateau qu'ils sont livrés que s'ils viennent du Mexique, dans certains cas. Donc, les gens qui disent « Ah, c'est un véhicule chinois, peut-être que ça pollue, et ainsi de suite », c'est moins grave. Et comme le véhicule est plus petit aussi, ben, sur la route, consomme moins et met moins de pollution. Donc, les gens qui sont soucieux de ce genre de détails-là, c'est intéressant de comparer, malgré la provenance, là, lesquels génèrent le plus... d'émissions durant leur cycle de transport et de livraison, disons ça comme ça.
Exact. Hey, merci pour ton temps, mon cher Alain.
Ça fait plaisir,
c'est déjà tout pour cette émission. Je remercie Jean-Christophe Ouellet derrière la console, notre invité Daniel Breton, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut.
C'est 23.
Recule un peu, recule, recule.
Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
OK, crampe en masse, crampe, crampe, crampe!
Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.
OK, des crampes.
Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.